la dernière partie de la journée d'hommage à René Barbier, précurseur en épistémologie et éducation. Je vais donner la parole tout de suite à Florent Pasquier, qui va se présenter et dire pourquoi cette question-là et un peu comment. Voilà.
Merci Jean-Louis, merci pour cette invitation que à laquelle tu nous as conviés depuis ce matin avec toutes ces différentes facettes. J'ai eu une demande à la pause que toutes les personnes qui vont intervenir, j'espère qu'elles sont très nombreuses, c'est l'objectif, parlent bien fort parce que certaines personnes ici n'entendent pas forcément très bien. Donc je vous encouragerai à montrer votre présence, prendre votre place et vous exprimer de là où vous êtes. Alors d'où je m'exprime moi-même puisque tu me posais la question. Je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation en poste à l'ESPE de Paris. Mon public principal, ce sont les futurs professeurs des écoles. Et je suis prof de nouvelles technologies. Alors la question a été posée ce matin, c'est un peu bizarre cette histoire de nouvelles technologies, de spiritualité. Et ben, j'essaye de creuser ça au travers du concept des technontologies, hein, qui est un concept un peu émergent sur effectivement la spiritualité, les nouvelles technologies. Et à mes groupes d'étudiants, je leur pose la question, je fais travailler sur l'école idéale du futur, ça répond un peu à ta question, et je leur demande d'inventer des métiers qui n'existent pas et qu'on pourrait avoir. Alors, ils trouvent, par exemple, dans les écoles, il faudrait des coachs, des thérapeutes, des jardiniers bio, des CDI multimédia. Alors, c'est vraiment un régal de voir que ces futurs profs ne sont pas limités dans leur imagination et peut-être aussi dans les pédagogies à mettre en œuvre. Pour entamer cette partie plus centrée sur spiritualité et éducation, j'aimerais faire la même réponse que René avait fait à Frédéric quand il avait dit « je vais dire la même chose que toi, mais avec mes mots, et je vais dire la même chose que pour l'éco-formation telle que vous l'avez présentée tout à l'heure, mais avec nos mots, nos points de vue par rapport à notre groupe ». Déjà, on a un point commun entre l'éco-formation, la spiritualité et la formation, c'est que René a été à la base de l'inspiration de ces deux groupes qui sont nés après la présentation en 2014 de cet ouvrage, que je vois ici, que j'ai vu ailleurs, voilà, qui est en téléchargement libre, qu'on retrouve en PDF sur Internet et sur le blog qu'on a, que je vais présenter tout à l'heure. Et il a été présent autant qu'il a pu, aussi bien dans votre groupe que dans l'autre. Et en même temps, il n'a jamais milité pour une fusion. Il ne nous donnait pas de vos nouvelles et inversement. Et ça, je crois que c'est assez représentatif de René, qui était à la fois partout et nulle part, mais quand même partout, et qui essayait de faire des jonctions là où, justement, la tradition académique vise plutôt à faire des scissions. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. D'où je parle mes postures. Juste pour me situer, Bassarab Nicolescu, dont, dont on a un peu parlé ce matin, m'a demandé d'être vice-président de son association du CIRET, le Centre international de recherche en transdisciplinarité. J'ai été également pendant peu de temps président de l'association française du transpersonnel avant de me faire débarquer par l'ancienne équipe qui n'avait pas accepté cette transition. Et puis là, je vais parler pour le groupe que Gyuzi a fondé, donc spiritualité et éducation à la suite de l'ouvrage de 2014 et l'idée c'est que en fait alors il y a plusieurs, hein, vous êtes infiltrés, on est au moins quatre de ce groupe, vous voulez bien lever la main, ceux qui sont encore là? Il y a Bouchra, Yuzi bien sûr, il y en a qui viennent plus ou moins régulièrement, Luc, Claudia qui a parlé, donc si ça vous intéresse vous pourrez aller voir les uns et les autres après pour approfondir ces questions là. Je voudrais aussi faire trois annonces, les faire maintenant, parce qu'après ce sera trop tard. Nous allons bientôt lancer avec Hélène Agège et Muriel Briançon un appel à communication pour une revue classée HCERES sur la question spiritualité et éducation. Je voudrais dire aussi que nous avons un collègue équatorien qui va venir pour un mois à partir de lundi, donc malheureusement il ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui est en poste à l'Université centrale de formation des enseignants, là-bas, qui serait très très heureux d'avoir des échanges avec des personnes qui bossent sur l'éco-formation, la spiritualité, la formation, la transdisciplinarité, le transpersonnel. Et lui, il est très branché sur la question de la Pachamama, dont il a beaucoup été parlé, mais sous d'autres nominations. Et le Buen Vivir en éducation, hein, qui est à la fois un projet politique. On n'a pas vraiment parlé de politique, on l'a vu en trame de fond depuis ce matin, sans que ce soit vraiment amené sur le devant de la scène. Donc je vous encouragerai à prendre contact avec lui au travers de moi, si vous le souhaitez, pour la suite. Voilà. Alors, pour lancer cette discussion, on a convenu que ce serait beaucoup plus un échange interactif à partir de questions, de témoignages, de retentissement, comme disait René, c'est-à-dire qu'à un moment, ça bouillonne et la place se prend, la parole se donne, et que vous puissiez, les uns les autres, par rapport à cette thématique qui va clore la journée, dire ce que vous souhaitez. Alors, j'aimerais beaucoup que ça se fasse peut-être sous forme de témoignages. On en a eu plusieurs ce matin. J'aimerais bien savoir aussi si... On a envie de partager sur les occasions de déclic, de prise de conscience. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on est dans un état plutôt dans la conscience, et puis d'un seul coup, ou progressivement, la conscience s'élargit vers les questions de l'écho, du trans, de l'inter, du multi, du co, etc. J'aimerais bien aussi, par rapport... Moi, ce qui m'attriste profondément, c'est l'absence de suite de René. C'est-à-dire que cet homme qui a passé plus de la moitié de sa vie à construire, à théoriser, à échafauder, à mettre en pratique ce qui nous réunit aujourd'hui, je ne vois pas où sont les successeurs et ni où ils sont vraiment. Et je pense que tout le monde a plus ou moins une idée, et j'aimerais aller plus loin que ce pourquoi et trouver comment faire pour faire revenir ça, le réincarner, le refaire vivre, le refaire fleurir et lui donner la place, la dimension qu'il mérite vraiment. Donc ça, si vous avez des idées, je pense que ce serait vraiment bien aussi. Dans les annonces, pardon, j'en ai oublié une. Le 8 et le 9 juin, à l'ESPE de Paris, il y a un colloque sur Paolo Frère et les pédagogies émancipatrices. Donc ça, on est tout à fait dans le sujet, je pense, d'aujourd'hui, auquel vous êtes évidemment tous les bienvenus. C'est juste sur inscription. Et puis, on a la grande joie de que Lou soit là avec son papa, la petite fille de René. Et donc, si elle avait envie de dire quelque chose sur son grand-père et que cet enfant intérieur qu'on recherche, qu'on, nous pourrions rechercher au travers de tout ce dont nous discutons, eh bien, on a un vrai enfant avec nous, mais qui n'est plus vraiment un enfant, qui est un futur adulte. Donc, si tu avais envie de dire quelque chose, on serait très heureux de t'entendre. Voilà. Donc, j'ouvre un petit peu comme ça. Je m'adresse à qui voudra. Et puis, j'espère qu'il en sortira des choses intéressantes et que nous allumions le feu, hein, ce quatrième opus, le feu vécu dans lequel j'ai un chapitre. C'est pour ça que ça me permettait de faire une petite transition.
Est-ce qu'on peut savoir quand a lieu le colloque sur Paolo Frère et où ?
8 et 9 juin à l'ESPE de Paris, 10 rue Molitor.
Il y a aussi un autre colloque à Paris 8, qui est très important, du 16 au 18 mai. C'est éducation critique au pluriel et épistémologie des Sud au pluriel.
Autour de Paolo Frère aussi.
Il n'y a pas de hasard.
Avec d'autres épistémologies.
Alors, autant que possible, faire comme depuis ce matin, on ne va pas distribuer un bâton de parole, mais que ce soit vraiment une personne à la fois et qu'on ne rentre pas dans des petits conciliabules, sinon plus personne ne profitera de cette fin de journée. On aura du temps après, j'espère, pour pouvoir échanger un peu plus si on le souhaite. Et parler fort.
Si vous voulez, je peux commencer juste pour démarrer. C'est parce que, comme je vous disais au début de cette journée, j'étais sa dernière doctorante. Et justement, mon sujet de thèse était l'éducation à la spiritualité laïque. Et en plus, j'ai fait une recherche action pendant 4 ans. Donc, c'était l'éducation à la spiritualité laïque et l'enseignement de la religion dans l'école italienne, à la recherche action. Donc j'ai fait une enquête sur l'enseignement de la religion dans l'école italienne et le sens que René avait donné à la spiritualité. J'ai découvert ce sens de laïcité de la spiritualité grâce à René. Donc, ma témoignage, c'est vraiment que René, pour moi, était un père spirituel, je peux dire ça. Et moi, je pense que j'étais sa fille spirituelle, quelque part, parce que pendant les années, on a cultivé, on a nourri cette relation pédagogique qui était tout à fait spéciale. Moi, je pense que j'ai eu vraiment la chance, parce que pas beaucoup de gens ont la chance de rencontrer un maître spirituel dans la vie. Et moi, j'ai tout quitté comme un Bouddha, un peu. J'ai quitté mon travail. Comme j'ai toujours dit, moi, j'ai gagné de l'argent. J'étais bien installée dans mon boulot au tribunal à Bologne. Et dès que j'ai découvert que René Barbier, il amenait cette sorte de recherche sur la spiritualité en sciences de l'éducation et qu'il s'y occupait de Jiddu Krishnamurti, moi, j'ai tout de suite eu la certitude que c'était ça mon chemin à faire. Je n'avais pas de doute et j'ai quitté mon travail pour me consacrer à d'autres études quand j'étais déjà adulte avec des enfants. Donc, c'était dur à penser comme ça, mais c'était fait tout naturellement parce que René m'a donné la voie pour le faire. Il m'a donné cette possibilité de changement de vie. Donc, pour moi, c'était tellement un troublement de vie dans un chemin tout à fait de recherche qui me correspondait complètement. Donc, ma recherche... un doctorat correspondait à ma recherche de vie, à mon recherche existentielle. Cette chance que j'ai eue de pouvoir faire ça, c'est grâce à René. Et qui, d'abord, tout au début, il ne voulait pas m'accepter parce qu'il me fiait, bien sûr. Il ne voulait pas vraiment accueillir quelqu'un sans savoir jusqu'à quel point on était motivé. Et moi, j'ai démontré vraiment la plus grande motivation à poursuivre mon chemin avec lui parce que j'ai tout quitté vraiment pour faire ses études. Et après, j'ai reconstruit tout à zéro, mais en partant des sujets qui m'avaient prégné pendant des années de recherche avec lui. Et donc, notre chemin ensemble a été vraiment la recherche sur la spiritualité laïque, sur l'éducation à la spiritualité laïque. Et c'est difficile maintenant de... Voilà, reprendre la thématique entièrement au niveau théorique, mais c'est un témoignage vraiment de grande importance dans l'existence de mon existence, de mon chemin de formation, René Barbier. Et je vous dis aussi que c'est difficile d'encadrer la personne parce qu'il est tellement transversal à tous les domaines qu'il a touché. Et c'est difficile vraiment de l'encadrer dans un de ses démons. Donc il était un sociologue, comme on a vu ce matin, militant, politique. Donc il ne refusait pas la critique sociale et la critique politique. Ça, c'est important. C'est pour ça que ça me correspondait beaucoup quand je trouvais René Barbier. Parce que moi, j'étais dans la critique et la militance politique, mais je ne refusais pas en même temps les domaines spirituels. Et j'étais accablée par le matérialisme marxiste dont j'étais entourée tous les années 80-90. Ça veut dire que moi, j'avais des bouquins de Jiddu Krishnamurti et je les cachais dans mon tiroir parce que j'avais honte. J'avais honte, c'est ça. La vérité. Moi, je faisais des études académiques, et j'étais entourée par des gens engagés politiquement et on parlait que de critique sociale et politique. Donc, on ne pouvait pas aborder la thématique de la spiritualité dans ces domaines. Mais je ne voulais pas rentrer dans les domaines de la spiritualité vue par les dispositifs voilà, tout à fait spirituels, New Age, tout ça. Donc, je voulais rester dans la critique tout à fait en gardant le côté spirituel. Et dès que j'ai rencontré cette approche qu'René avait donnée au savoir, hein, il considérait le savoir dans l'unité, hein, qui avait dépassé la dualité même de la contrainte entre les matérialités et la spiritualité, et par la spiritualité laïque, parce que la spiritualité laïque, c'était un dispositif qu'il a fait émerger pour dépasser la contrainte entre la matérialité et la spiritualité. Ça veut dire qu'on peut être des hommes intégrales, comme Jiddu Krishnamurti il a exprimé plusieurs fois, dans l'intégralité de l'être, on peut avoir plusieurs domaines d'existence. Et donc, il n'a jamais refusé l'existence de la critique intellectuelle, les domaines de la critique intellectuelle, tout en gardant les domaines spirituels et bien sûr d'autres domaines qui créent l'homme intégral de Jiddu Krishnamurti. Et donc, René, il est le sociologue, mais il est aussi le philosophe, mais il est aussi l'artiste, parce qu'il est poète, et cette poésie, elle est aussi musicienne, parce qu'il est accordéoniste. Et moi, je suis accordéoniste, et j'ai tout de suite trouvé vraiment quelqu'un qui me correspondait pleinement, à partir de l'approche à la réalité, à finir vraiment à la dimension même collective qu'ils mettent en place pour la recherche. Voilà. Il n'y a pas de recherche s'il n'y a pas de collectif qui approche la recherche dans le sens de la recherche sociale. Donc, moi, j'ai trouvé vraiment tout à fait des points toujours en commun et j'ai travaillé pour amener ces recherches peut-être un peu plus à faire les faire avancer, mais par sa guide, parce que en fait, j'ai repris vraiment tous ces pas de méthodologiques, ces recherches théoriques. Et bon, et après des années de travail autour de ça, dans la formation, mais même dans le monde associatif, voilà. Là, c'est la situation, je me rends compte, c'est qu'il me disait tout au début de notre chemin ensemble, il me disait, fais attention, parce que ça, c'est vraiment un domaine qui n'a pas de retombées dans le monde du travail. Donc, il y a de la grande méfiance autour du mot spiritualité. Si tu vas parler de spiritualité sans qu'il y a vraiment une écoute sensible de l'autre côté, donc il n'y a pas une préparation, il y a pas, mais il y a plein de préjugés par rapport vraiment déjà au milieu de la spiritualité, parce qu'elle est contaminée par l'institution religieuse, par le concept de l'Église, l'Église de la religion monothéiste normalement. Et donc il me disait toujours, on n'a pas de futur, on n'a pas vraiment de futur académique avec ça, mais en tout cas, c'est vraiment, pour moi, c'était la peine vraiment de me plonger tout au fond de cette recherche, parce que je suis en sortie, oui, renouvelée au niveau existentiel, voilà. Et bon, je me termine, pardon, excusez-moi.
Oui, alors, moi je me présente Philippe Nicolas, René c'est toujours mon beau-père, et j'émettrais un regard profond différent du tien sur, mais finalement, où est-il et qu'est-ce qu'il fait. Et moi j'ai plutôt envie de vous témoigner qu'il agit en nous-mêmes, au tréfonds de nous-mêmes, avec un héritage sur lequel vous avez travaillé ce matin, conséquent. Moi, c'est un homme que j'ai vu aussi, et je le dis humblement, que j'ai vu évoluer dans sa spiritualité aussi. Et je crois que c'est très important de ne pas idéaliser aussi un homme, et aussi d'être capable de voir que René aussi a été hanté par la mort, par la question de la mort, la question de l'anéantissement, la question d'un après. Ça a vraiment été des choses extrêmement importantes pour lui. Et ceux qui l'ont vraiment côtoyé, je crois qu'ils peuvent aussi en rendre compte. Et en matière de spiritualité, moi, ce qui m'a toujours vraiment touché, c'est cette maïeutique chez lui, hein, et je ne vais pas reprendre ce que tu as dit, c'est cette capacité dans l'écoute sensible qu'il avait à ne pas nous dénaturer en tant qu'étudiants. Il nous laissait une place vraiment dans nos intuitions les plus sensibles, les plus petites, et nous permettait d'advenir à nous-mêmes. Donc pour moi, ça, c'est déjà, en matière de spiritualité, quelque chose vraiment d'important. Il a aussi une intuition spirituelle très vive, c'est celle de faire rentrer l'héritage des cultures premières à l'université. Et pas simplement les cultures premières, mais aussi des hommes, des femmes qui sont enracinés dans leur quotidien, que ce soit des horticulteurs, que ce soit des pêcheurs, des chasseurs. Moi, je sais que l'intitulé de ma thèse portait sur la pratique de la pêche. Ça a été compliqué il y a 10 ans de valider, mais lui, finalement, pressentait qu'il se jouait quelque chose. Il se jouait quelque chose, une spiritualité du quotidien. Et cette spiritualité du quotidien, elle n'est pas sans rappeler le travail de Michel Maffesoli sur la centralité souterraine, par exemple. Hein, je sais qu'au départ de l'année, Michel Maffesoli était là, un homme lumineux, et j'ai pu le voir à la fin des obsèques, et il m'a dit qu'il avait apprécié et qu'il aimait cet homme. Il aimait cet homme, ce René Barbier, et que lui-même poursuivait finalement sa quête dans la spiritualité du quotidien. Alors, il y a aussi un concept vraiment très important, et je crois qui est vraiment l'arbre marchand René Barbier, c'est la congruence. Moi, j'ai toujours été, en tant qu'étudiant et en tant que gendre, très touché par la congruence de cet homme, vis-à-vis de sa fille, vis-à-vis de sa petite-fille, vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis de moi-même, vraiment une quête d'intégrité entre ce qu'il pouvait dire et ce qu'il était. Évidemment, avec tout un travail très intellectuel qui émanait du 20e, hein, où il était un peu touche-à-tout, mais il avait vraiment à cœur d'entrer dans quelque chose de vrai pour lui-même et de vrai pour les autres, et quelque chose aussi qui a à voir avec l'héritage qu'il nous lègue, c'est vraiment une passion pour le complexe. Pas forcément la pensée complexe d'Edgar Morin, mais la complexité de l'être humain. Et finalement, il n'avait de cesse à comprendre comment pouvait fonctionner quelqu'un qui, entre guillemets, dysfonctionnait. Et cette approche, on va dire là pour le coup psychanalytique, assez extraordinaire, et avec un amour infini. Alors, sur les questions, on va dire, spirituelles, ecclésiales, c'est vrai que c'était là un athée majeur, et on avait vraiment des oppositions, lui et moi, mais c'est un homme qui a profondément expérimenté la joie, et qui, de ce fait, a autorisé donc ta thèse et celle d'Antonella Verdiani sur la joie. Et je dois dire aujourd'hui que à l'université, valider quelque chose sur la joie, c'est extrêmement important. Hein, et par exemple, Philippe Mérieux, qui a pris sa retraite, a osé, au terme d'une énième conférence, sur les 2 minutes, il a dit certes, c'était un scientifique, mais il ne pouvait pas s'interdire de confirmer l'enthousiasme chez ses jeunes enseignants et la joie qu'il pouvait avoir enseigné, même s'il était méprisé par ses pairs. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire la séparation entre spiritualité et joie sans objet. Et ça, c'était vraiment une des quêtes vraiment importantes, on va dire, les dernières années. Je vais terminer simplement en vous partageant, non pas la fin de vie de René Barbier, mais son passage, qui en a ébloui plus d'un. Donc René, quand il a su effectivement qu'il était malade, a pris la décision de ne rien prendre, entre guillemets, et de ne pas être branché. Quand je l'ai vu à l'hôpital, il me dit « Je vais bientôt regagner le club des poètes ». Tu parlais de la poésie, René Char, je vous cite cet aphorisme, « Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté ». C'est pas rien quand on a expérimenté ça, quoi. Et moi, je mets mes deux mains, non pas sur le brasier, mais pour moi, René Barbier a expérimenté ça. Et au moment où il a passé, finalement, vers cette vie, il a été d'un amour incroyable. Vis-à-vis de tout le monde. On pouvait imaginer, moi, 1m90, 100 kilos, qu'est-ce que je peux faire pour lui, etc. Et en fait, les choses étaient inversées à son chevet. C'était un amour donné, mais aucune peur, aucune crainte, aucune angoisse, détaché d'une façon extraordinaire. Donc il plaçait quasi immédiatement tout le monde dans la paix. Dans la paix, une sérénité. Et moi, ça m'a beaucoup nourri, et ça m'a beaucoup fait progresser aussi intérieurement, où finalement, il n'y avait pas de résignation, il y avait un détachement, et il était prêt, quoi. Il était prêt, et Sunmi m'a dit, Philippe, il m'a écrit des poésies, comme quoi il était sur le seuil. Avant de partir, il disait, je suis sur le seuil, je suis en partance. Et ça me paraît vraiment très très important de vous partager ça, parce que il a enseigné ce qu'il était profondément. Et évidemment, il y a apparemment une place manquante, mais en fait, il ne s'agit pas d'aller chercher à l'extérieur, il faut aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes, dans un espace où il nous a appris finalement quelque chose d'une noétique et d'une liberté intérieure. Alors, vous direz, oui, il manque aussi, mais avec tout ce qu'il a légué, c'est à chacun finalement d'aller chercher, d'aller creuser, hein, son approche transversale extraordinaire. Il faut savoir qu'au premier et second degré, on parle dans le socle commun d'approche transversale aujourd'hui. On n'est plus à plaquer finalement un enseignement, on est plutôt à susciter une méthode. celle finalement d'être pluridisciplinaire et transversale. Donc René, oui, cette joie, et cette joie qu'il continue, et moi j'ose vous le dire, qu'il continue finalement à distiller pour ceux qui... Il a été enseignant, il a été guide, et finalement il est encore ce qu'il a été, et il est encore enseignant et guide pour ceux qui l'ont vraiment aimé, et ceux qui, je crois, ont apporté, comme disait Paul Taylor, quelque chose pour redresser le monde. Donc je crois que, voilà, pour moi, le témoignage en matière de René et la spiritualité, c'est bien celle-ci. Il m'a dit aussi une chose, tu sais, Philippe, il avait sa canne, c'était à un mois et demi, hein, et il marchait, il me dit, tu sais, hein, mon père ne m'a jamais quitté, il marche avec moi. Mon père marche avec moi. Et avec une joie, il était déjà détaché de tous les biens matériels, et il avait organisé d'une façon extraordinaire. Finalement, tout ce qui était matière a été transmis bien à l'avance. Donc finalement, il est parti, comme a dit Sunmi, comme il avait l'habitude d'enseigner, quoi. Très surprenant, très poète, très artiste, imprévisible. Voilà, je fais partie de ceux qui témoignent qu'il agit au tréfonds de nos cœurs, du mien et de sa petite fille.
Lou, tu veux rajouter quelque chose peut-être ? Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire ton papa ? T'es d'accord avec lui ou...
Je peux ne pas être d'accord. Tu diras quelque chose si...
Oui, quand tu voudras, tu pourras interrompre les grands s'ils parlent. Merci pour ces deux premières prises de parole. Moi, j'encourage quiconque souhaiterait, même s'il n'a pas connu, ou que par oui dire, ou que par ricochet, ou par ses écrits, ses vidéos. Il y a énormément de vidéos de René qu'on trouve facilement sur la toile, ou à poser des questions, échanger de façon libre dans le temps qui nous reste.
Aziz Zoulamtekou, ancien du DUFA, une des formations que notre cher René a eu l'occasion de diriger pendant deux bonnes décennies. Il a utilisé une expression que j'ai découverte grâce à lui, justement, dans une lecture mémorable, c'est la noétique. Est-ce que vous pourriez définir ce concept pour...
La noétique ?
Oui.
Donc... En fait, René a suivi le travail, je crois, du dénommé Agnès...
L'autorisation noétique.
Marion Jabras.
Voilà. Sur un principe d'ouverture, d'un espace au tréfonds de soi-même, qui est très proche, en fait, du concept de Michel Maffesoli quand il parle de la centralité souterraine. Un espace en soi... où finalement il s'agit vraiment d'être vraiment soi-même, libéré des conditionnements, pas forcément des blessures, mais surtout des conditionnements. Donc un espace on va dire, pour essayer de vous expliquer, qui peut être très proche de certainement ce qui a été évoqué par Eric et Odile dans le champ de l'éco-formation sur l'éco-naissance. Un avènement finalement soudain, sans intermédiaire, d'une conscience de soi et du monde, sans séparation. Donc, on comprend là d'autant plus pourquoi René a autorisé, là pour le coup, ce genre de recherche. Voilà, puis il y avait ce concept, ce glissement entre l'autorisation et l'auteurisation. Comment on devient auteur ? Et ces questions de devenir auteur de soi, elles sont reprises par de nombreux pédagogues qui... essaye vraiment de fertiliser ce socle commun de la culture, de la connaissance, de la compétence. On n'est plus du tout à, encore une fois, à envoyer finalement, à demander à ce que l'apprenant, l'enfant apprenant répète et s'approprie, mais on est plus finalement l'enseignant aujourd'hui de plus en plus, hein, même si dans certaines écoles, ce n'est pas encore ça, et c'est l'école à venir, où l'enseignant qui a vécu des expériences, a traversé aussi ce qu'il est à même finalement d'être plus un accompagnateur, un guide, un peu comme Isabelle Peloux par exemple, qui va accompagner des enfants dans ce processus finalement d'advenir à soi-même.
Et alors c'est là où c'est intéressant, c'est que comment advenir à soi-même et comment nous dans nos formations, nos institutions présentes ou futures, nous allons pouvoir rendre vivant hein, cet aspect d'une spiritualité en éducation. En réalité, mon point de vue, c'est que quiconque dirait voilà la façon de faire, c'est comme le Tao, dire ce qu'est le Tao, c'est déjà plus le Tao. Et c'est là où, dans cette absence et dans ce vide créateur auquel nous faisons face maintenant, comment chacun nous allons pouvoir devenir auteur de ce trajet et de dispositifs pédagogiques multiréférentiels, pas forcément juste à mettre en œuvre, mais peut-être à proposer et à accompagner. Et c'est là où une créativité, un gros mot d'ingénierie pédagogique, peut-être complètement ouverte et à même de se jouer. Et à nouveau, je ne pense pas du tout que c'est dans une transmission ou une mise en application de quelque chose qui préexisterait que ça va se passer. Là, ce sur quoi on travaille dans notre groupe, c'est justement comment rendre vivant cette dimension ontologique, spirituelle dans un processus éducatif. On a passé beaucoup de temps dans notre groupe déjà, ne serait-ce qu'à définir le terme de spiritualité. Et si on demandait ici à chacun qu'est-ce que c'est pour lui la spiritualité, il y a fort à parier qu'on aurait autant de réponses que de participants, voire peut-être même plus. Donc en fait, on cherche pas à s'arrêter sur les mots, mais on cherche beaucoup plus à essayer d'identifier des situations ou des possibilités de mise en situation permettant de rendre compte d'une axiologie de valeurs, d'objectifs qui sont tous dans la lignée des pédagogies émancipatrices et autonomisantes. Pour ma part, par exemple, je développe une pédagogie intégrative et implicative. Intégrative dans le sens où il ne s'agit pas de donner une priorité sur une façon de faire par rapport à une autre, tout dépendant de mon point de vue du contexte. C'est un peu de la pédagogie institutionnelle, par exemple. Et implicative parce que l'idée, c'est justement de redonner la main. C'est la vieille tarte à la crème de l'apprenant au centre du dispositif. Mais qui le fait réellement, ça ? Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure en réponse à la question que tu posais, effectivement, au travers des écoles démocratiques où le programme, c'est qu'il n'y a pas de programme. Mais même quand on a dit ça, le champ reste extrêmement ouvert. Voilà, donc vous avez peut-être aussi des expériences à partager. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre groupe et je vous encouragerai, si ça vous intéresse, à venir discuter pour grossir nos rangs, si vous le voulez.
Je voudrais juste retentir sur ce qui a été dit tout de suite et avant. Tout d'abord, dire que c'est grâce à René que j'ai pu faire mon DEA en étant salariée à la fac, parce que j'étais rentrée à Paris 8 en tant que non-bachelière. Et c'est très difficile de faire des études à l'université quand on n'a pas les bases, les prérequis. Donc, il faut beaucoup de tolérance pour accepter ce décalage. Donc, je dois dire que je lui dois mon DEA et la possibilité d'intervenir dans le DUFA pendant 20 ans, ce qui m'a procuré beaucoup de difficultés, parce que ce n'est pas évident dans mes conditions, mais un très grand bonheur qui a changé ma vie. Et ayant connu René pendant quelques années de manière intime, ce que vous avez dit de René, qu'il avait toujours son père à côté de lui, je crois qu'il a toujours eu son père à côté de lui. Et que même cela pouvait parfois induire quelques difficultés à l'égard des femmes, de leur rapport homme-femme, et en particulier en ce qui concerne sa mère, je ne dévoile rien, sa mère était au Parti communiste, elle était par rapport à la femme idéale pour René, une femme trop traditionnelle, trop conformiste par rapport à ce qu'on pouvait attendre après mai 68, le New Age, le foisonnement de la, voilà, de la liberté qui a suivi 68. Et je me suis demandé, par rapport à votre témoignage, où était le sociologue dans les dernières, dans les derniers temps, cette spiritualité, il y avait une soif de spiritualité évidente. Et bon, ce serait intéressant d'affiner un peu tout ça, mais il me semble aussi qu'il y avait un rejet de la sociologie. J'ai relu la lettre qu'il a écrite lors de la mort de René Louraud, et il lui dit « Mais comment peux-tu rester sociologue ?» parce qu'il lui parle au présent. Comme si, chez les sociologues, il n'y avait pas de différence entre les sociologues. Effectivement, on peut regretter toutes ces catastrophes qui ont suivi, qui ont été liées au socialisme d'État dans les pays comme la Russie. Mais le capitalisme n'en fait pas moins. Et donc, est-ce que quand même nous n'avons pas besoin de sociologues ?
Je vais rebondir sur cette question-là. À partir d'un petit bout de rappel un peu de l'approche transversale, c'est ce que j'ai découvert, qui est à mon avis l'apport majeur de René, en venant la spiritualité après. C'est-à-dire, bon, bah, c'est les lectures de ce livre qui m'a fait reprendre des études, enfin pas seulement, mais qui a beaucoup contribué, bon, il y a une vingtaine d'années. Quand j'ai connu René comme étudiant, puis après comme collaborateur dans différents groupes de recherche, j'ai l'impression qu'il y a eu deux moments. Alors, ce n'est pas forcément deux époques, c'est deux moments. Hein, c'est avec le premier moment qui revient dans le deuxième, peut-être, mais c'est quand même assez net. C'est que, au début, il y avait vraiment de l'approche transversale au sens de coexistence et dialogue permanent des imaginaires pulsionnels, donc en référence à la psychanalyse, imaginaire social avec Castoriadis et quelques autres sociologues, et imaginaire sacral avec Krishnamurti, évidemment, mais aussi Gilbert Durand et quelques autres. Donc il y avait trois pôles qui étaient placés en situation, on pourrait dire, un peu de se réguler les uns les autres. C'est-à-dire que, bah, effectivement, il y a plein de quêtes spirituelles sur lesquelles une approche psychanalytique peut amener pas mal de lumière et lever pas mal d'illusions. Et réciproquement, il y a des déformations psychanalytiques dans la façon de concevoir le sujet, la personne, etc., que des approches spirituelles peuvent éclairer. Et là, bon, je ne vais pas vous faire toute la combinatoire, mais le fait qu'il y ait ces trois partenaires, pulsion, donc psychanalyse, sociologie, castoriadienne, et puis spiritualité, qui soient placés quasiment à égalité dans la discussion interne de l'approche transversale, ça me paraissait tout à fait génial. Mais une position extrêmement dure à tenir, et à mon sens, dans ce que j'ai vu, alors c'est beaucoup plus limité que les gens qui l'ont connu mieux que moi, hein, mais dans ce que j'ai vu, René ne l'a pas tenu vraiment beaucoup. C'est-à-dire que pendant un temps, dans les cours, il articulait Castoriadis, Lupascaux, différents auteurs, des choses très, très pointues. Ça a déjà été évoqué un peu d'une autre façon, ça. Hein. Et puis après, on aurait dit que l'exigence d'argumentation avait cédé la place à l'exigence d'authenticité. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des éléments poétiques qui venaient s'entremêler, etc. Alors c'était très... oh là, c'est bien et tout. Mais quand on se demandait après qu'est-ce qu'il a dit, on était bien en peine de résumer. C'est quand même un petit peu embêtant. Alors, mais ce qu'il y a, c'est que c'est embêtant. Où est-ce que ce sera embêtant ? C'est embêtant, et là je rebondis sur une question qu'a posée Florent, c'est sur qui prend la suite de René. Bien entendu, comme qui prend la suite de René à l'université. Alors, la question, c'est que si jamais il s'agit d'un espace d'autorisation, d'une ressource culturelle beaucoup plus large que le petit monde de l'université, parce que, bon, bah, la recherche, ça ne se fait pas qu'à la fac, ça se fait dans plein de réseaux, des praticiens, machin, c'est énorme. La fac, c'est un tout petit truc. On est dans un séminaire doctoral aujourd'hui, si je ne m'abuse. Alors, donc, la question, c'est que le passage de, d'un type d'argumentation où bon, les choses essayent d'être bien articulées, etc. Bon, là, avec ça, même avec le thème de la spiritualité, on ne l'appelait peut-être pas forcément comme ça, mais on a eu une argumentation, mettons, il est possible de faire une thèse après d'être qualifié au CNU, voire d'avoir un poste. Si jamais il y a, une sorte de tissage où c'est beau, mais on ne comprend pas trop d'un point de vue universitaire, eh ben, ça ne marche plus. Hein. Donc en termes de stratégie de recherche par rapport à une succession de, non pas de René lui-même, c'est pas possible, mais du courant de ce qu'il a impulsé en sciences de l'éducation, il y a ce point de vue stratégique-là, c'est-à-dire à quel René Barbier on veut se référer, sur quel René Barbier on veut s'appuyer, si jamais on veut se dire, j'ai essayé de donner des suites à l'université. Voilà. À part ça, je le répète encore quand même, hein, à l'université, c'est un petit monde, et puis il y a énormément de recherches extrêmement, je pourrais dire plus ou moins, mais autres, qui se font ailleurs. Et c'est une toute petite question. Mais c'est quand même une question qui, vu où on se trouve et dans quel cadre institutionnel on se trouve, doit être posée quand même comme centrale aussi.
Pour ceux qui ne connaissent pas...
Oui, Francis Lesourd.
Maître de conférence en sciences de l'éducation à Paris 8, responsable UM1.
HDR.
HDR.
La question que tu poses, Francis, c'est la question que posait Elisabeth Potier déjà.
Oui.
Bon, c'est peut-être pas la bonne référente entre les Lyonnais, mais elle posait la question il y a 10 ans de qui suit et qui peut prendre la place de René Barbier. Bon, elle ne le disait pas dans la forme que tu viens de nous parler. C'est un petit peu plus brutal. Et finalement, il faut lui reconnaître aussi. Un petit peu de vérité.
Oui, certainement. Non, mais moi, je rappelle la réalité universitaire, ça ne veut pas dire que je tiens à ce qu'elle soit de la façon dont l'espérait Elisabeth Bautier.
Oui.
De deux choses l'une. Mais la réalité universitaire, elle est quand même ce qu'elle est. Mm. Bah, si on ne la rappelle pas, c'est un peu dommage. Mm.
Justement, l'Institut... Les sagesses du monde qu'il avait créé, ça devient. Pardon. Il avait créé l'Institut des sagesses du monde et je me demandais qu'est-ce qui devient.
Rideau.
Rideau.
C'est encore en ligne en tout cas.
Pour l'instant. C'est encore en ligne, mais la dernière activité de l'Institut, ça a été avec Jacques Arduano. Ça doit faire. Donc, Capturier, en fait, ça a été remplacé. Par ses activités au CIRP, après. Ouais. Il y avait pas mal de séances de l'Institut qui se déroulaient d'ailleurs à ESCP Europe, à l'intermédiaire de François. Puis ensuite, il a investi les trucs. Ah oui, il y avait un axe sagesse au départ, hein. Ouais, dans l'UCP. Ouais.
Sagesse du monde.
Oui, c'est ça. Voilà, donc l'Institut...
Enfin, c'est l'occasion, enfin, on n'est pas souvent en début, je ne sais pas. Tu dis que ce n'est pas à l'université, je ne sais pas de ce que j'ai entendu, en tout cas, quand tu dis qu'une thèse avec un certain René ne sera pas qualifiée, c'est qu'il n'y a pas une place dans cet univers pour... En tout cas pour un certain héritage. Et justement, est-ce qu'on en fait quelque chose ou pas ? Enfin, c'est peut-être le moment de poser la question.
Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de place pour cet héritage. J'ai dit que j'ai essayé de différencier de manière un peu trop carrée certainement, mais le René qui mettait en dialogue, par exemple, dualité psychanalyse et sociologie castoriadienne, et le René qui était plus poète que enseignant-chercheur. Ce serait très très bien si une thèse poético-argumentative pouvait passer la barre du CNU. Mais crois-tu que c'est possible? Moi je pense pas. C'est ça que je dis.
Ah ouais.
Et je pense que il me semble, alors ça après j'ai pas vraiment d'informations fiables là-dessus, mais bon, puis en plus l'époque n'était pas la même, mais quand René a été recruté, il parlait pas d'approche transversale et Krishnamurti.
Bah,
voilà, bon voilà. C'est, donc bah, c'est des réalités stratégiques qui sont à prendre en compte aussi dans le projet. Ou alors on se dit que l'héritage de René Barbier, c'est, il peut être pris dans des réseaux de recherche hors fac. Mais c'est pas sûr. Mais là, il y a une réflexion, stratégique à mener. Si on veut.
J'en avais parlé de ça avec René il y a longtemps. Et moi, j'en arrivais à la conclusion qu'effectivement, ce n'était pas possible. Le René Barbier entier, c'est pas possible. Alors moi, j'avais la solution. Hein. Puisque ça vient de Paris 8, et ben, tout ça, c'est fini. On fonde une nouvelle université. Ce sont de nouveaux critères. Et l'année dernière, encore, la réponse qu'il me faisait, il me dit « Ouais, ça serait bien, mais je suis trop vieux. » Voilà, donc il était d'accord. Ben, faisons-le. Tu voulais une idée. Ben voilà, on fait une charte, on fait un projet, on le met au milieu, puis on le réalise. Et voilà, et dans 6 mois, ça vit. Pas compliqué. Il suffit de le faire. Voilà. Alors, qui sort le crayon, qui sort le papier, puis allez, ça roule. On a toujours fait comme ça, un chrono, les trucs. Allez, on y va.
On peut aussi voir la chose autrement. Derrière, il y a une théorie du sujet qui est en jeu. Quelle théorie on met en place? Est-ce que ce que René a produit en termes de formalisation, modélisation, conception de la personne, est-ce qu'il est allé assez loin? Est-ce que d'articuler justement différents logos avec le différents niveaux de langage, avec celui de la recherche et celui des images, et parmi les images, celui du poète, est-ce qu'on est dans des questions langagières, on n'est pas loin d'épistémologie derrière, est-ce que l'épistémologie que défend l'université actuellement est pertinente ou pas? Il y a d'autres enjeux. L'institution, elle est là aussi pour se réformer. Voilà. On peut aussi voir le... C'est pas parce que c'est pas possible à l'heure actuelle qu'il faut s'arrêter là. Faire ce constat-là et jouer les jeux de l'institution, c'est aussi de transformer cet univers de la recherche universitaire.
Quelqu'un voulait intervenir tout à l'heure dans le fond, non?
Oui, j'avais
C'est le moment.
Je vais essayer de parler fort parce que c'est pas mon fort. juste pour compléter par rapport à les remerciements des anciens qui ont été inspirés par lui, je pense, parce que pour moi c'était vraiment une très belle surprise quand je suis tombée sur son travail, d'avoir vu sur Internet en cherchant comme ça quelque chose qui pourrait relier une idée d'aller en thèse et en même temps mes centres d'intérêt personnels, justement, donc ce qui était lié à l'actualité. Quand j'ai vu qu'il y avait effectivement des thèses qui existaient, c'était une surprise parce que j'y croyais pas. Ça me paraissait complètement impossible dans l'université. Donc quand je suis tombée sur son travail, j'étais très enthousiaste. J'ai commencé à envoyer des mails à lui. J'ai même contacté Judy parce qu'à un moment donné, il ne m'avait pas répondu à mon mail. Et je pense que J'ai vu que c'était sa dernière doctorante, donc j'avais demandé si elle avait son contact. Et à la fin, elle m'a répondu, elle m'avait proposé de se voir, et c'était vraiment pour moi une belle rencontre, parce que il était justement très très lui-même en fait, ce qui était pour moi déjà un moment très très enrichissant, parce qu'il m'avait écouté de façon comme profonde par rapport à ce qui m'intéressait, quelle était mon expérience. Il avait partagé aussi beaucoup sur sa vie, sur lui-même, sa petite fille, que je suis très touchée de voir aujourd'hui. Et de voir qu'il s'est passé quand même 6 ans entre ce moment-là et maintenant. Donc, maintenant, elle est plus si petite. Et qu'il m'avait conseillé de m'adresser à Frédéric et Hervé, qui était là ce matin. Donc, pour me prendre en tête. Donc, bon, je suis à ma 6e année, mais est-ce que ça passe vite? Parce que je ne sais pas, ce que je retiens aussi de cet échange, c'est que ce qui m'avait frappé, c'est justement cette intégrité, c'est la capacité à la fois justement de relier les choses qui nous paraissent comme ça complètement opposés parfois, donc l'université, la spiritualité, une recherche assez libre et quelque chose d'assez académique, et en même temps, bah, voilà, aussi la spiritualité qu'on oppose parfois, cet aspect très humain en fait, qui est très intègre de sa personne, ce qui pour moi en fait reflète sa vraie, justement, son vrai vécu de quelque chose de vraiment spirituel. C'est quand il y a une vraie rencontre, il y a une vérité qui est justement une entre ce qu'on peut entendre de ses proches, les personnes les plus proches, les personnes qui l'ont connu dans un autre milieu intellectuel, où en fait tout était complètement relié. Et quand il peut rencontrer une étudiante pour la première fois, et déjà on a ce contact vrai avec lui et sa personne, et non la facette juste chercheur, professeur, mais vraiment l'ensemble. Donc c'est ça qui est vraiment un vrai apprentissage aussi pour moi, cette chance d'avoir simplement rencontré quelqu'un d'assez exemplaire sur ce point. Et je suis heureuse de l'avoir revu ce printemps, je pense, c'était à UCP, quand il avait parlé sur sa vie, sur la spiritualité laïque, justement, c'était le thème de cette rencontre. Et d'avoir aussi mangé après un repas avec lui, et échangé d'une façon plus informelle. Donc c'était pour moi vraiment très très touchant de pouvoir partager ces moments avec quelqu'un qui, sur le plan intellectuel aussi, justement donner qu'à montrer ce chemin, cette réflexion très ouverte, cette possibilité de justement intellectualiser quelque chose de son parcours spirituel, plutôt parfois difficile à transmettre ou difficile à partager, et mettre dans le cadre
quelque chose par rapport aux outils d'interrogation là, qui se posent là. Déjà, d'un point de vue un peu historique, histoire récente, il faut voir que dans le laboratoire Experis, il y a des courants, et notamment on a parlé de caractéristiques, parce qu'à un moment il y a eu une scission dans le laboratoire de sciences de l'éducation, où une branche a fait scission. Et dans cette branche, il y avait notamment des courants issus de l'analyse institutionnelle, avec Rémy Hesse, Lucette Paulin, avec des pédagogies autour du journal, autour de choses communes sur les histoires de vie, etc. Et puis aussi d'autres par rapport à ce qu'il y avait du côté des approches existentielles, expérientielles de l'éducation. Et je pense que de ce point de vue-là, ça n'est pas non plus complètement un hasard. Alors, l'Experis de 2018 n'est pas le même que, logiquement, que celui des années, début des années 2000. Hein, enfin, ça a été créé en 2004, tout ça. Bon. Et je ne suis pas sûr qu'il y a des choses qui peut-être continuent et d'autres qui peut-être ne continuent pas. Hein, du côté de, où les conceptions ne sont pas les mêmes, hein, de l'interculturel, du rapport à l'écologie, etc. Alors, moi, si j'essaie de répondre un peu à la question que je m'étais posée, précurseur épistémologique en éducation, il y a des choses où je vois de toute évidence que oui. D'autres, pas spécialement, parce que ça s'intègre dans des mouvements généraux, hein, je veux dire. Parce que là... J'ai l'impression que des thèmes... Alors, j'avais vu ça quand j'avais fait la préface, par exemple, du numéro sur spiritualité, formation. Premier numéro d'une revue de sciences de l'éduc qui ose aller sur ce thème. Au début, moi, je me disais, oui, oh là là, c'est pas demain la veille, et tout ça. Et puis, en y regardant, par exemple, dans les entreprises, je veux dire, on trouve cette question-là. J'avais complètement renversé ma propre position. Et qu'est-ce que je vois actuellement? Je vois qu'à l'université se développe... des masters de méditation, de pleine conscience, de ceci, de cela, etc. Et pas dans des lieux extravagants, minoritaires, non, au centre de Paris, faculté de médecine, etc. Enfin, oui, bon. Donc, moi, l'analyse que je fais au niveau épistémologique, c'est que les questions, c'est pas seulement René Barbier. On l'a vu... ce que disait Luigi, qui lui l'a pas connu spécialement. Donc on n'est pas dans la référence à l'homme en tant que, comme Giussi, maître spirituel, la rencontre avec la personne. Hein, tout ça. C'est que ces questions-là, il y a des questions de cet ordre-là qui vont être radicalement indispensables. Du côté de recherche-action existentielle, etc. Pourquoi ? Parce que... Il y a des questions qui sont posées par... déjà, il y a un effondrement des savoirs traditionnels, scientifiques, qui deviennent de plus en plus non dignes de confiance, parce qu'ils sont financés par ceci, par cela. On ne sait plus si ça correspond à des intérêts autres. Il y a un manque de fiabilité. Il y a, d'autre part, tout un ensemble dans l'information de non... fiabilité, on dit, il y a des fake news, il y a de ceci, on sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et la question, pas uniquement spirituelle, mais du sens de l'existence, elle est posée de manière hallucinante. Alors, un exemple qui peut peut-être beaucoup choquer, moi j'ai fait des ateliers sur Daesh comme mouvement d'éducation populaire politique, tout ça. Je veux dire, il y a une irruption du spirituel, alors pas sous un angle qui nous est sympathique, mais c'est quand même ça, hein, des gens tout d'un coup. Bon. Et à d'autres niveaux, par rapport à une catastrophe écologique, on l'appelle anthropocène, on l'appelle collapsologie, on l'appelle tout ce qu'on veut, qui est en train d'arriver plein pot. Ouais, hein, c'est évident. Et là-dedans, là, ce sont plutôt les scientifiques qui sont dans le truc du climat, qui sont dans les sciences dures et tout ça, muséum d'histoire naturelle et tout, qui nous disent, mais regardez, là, on est en train d'aller dans le mur. Et donc, ces questions-là, eh ben, René Barbier ou pas René Barbier, on est en train d'y aller plein pot. Et donc, est-ce qu'on va attendre qu'il y ait uniquement sous une forme par rapport au spirituel, que ce soit des sociologues, des psychologues, des sciences cognitives, ou d'autres qui regardent ça comme des sociologues du religieux, tout ça, qui regardent ça de loin? Eh ben, ça va pas, hein, ça va pas le faire comme ça. C'est-à-dire que il va y avoir entre les sciences officielles dans les universités qui sont en plus une diversité, et puis des mouvements qui vont bouleverser par rapport à des questions qui vont se poser. Ça, je crains que certains des René Barbier précurseurs épistémologiques, pas sur tous les ce qu'on a parlé aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça marche sur tout, parce que parfois il fait partie d'un ensemble, et puis c'est difficile d'isoler sa pensée, mais je me suis dit qu'il faut mettre ça là, parce que je pense qu'on est dans des conditions qui sont là, même si René Barbier, souvent, comme il a changé plusieurs fois, il n'est pas resté dans les écoles, l'analyse institutionnelle l'a oublié depuis longtemps, il n'a jamais fait partie de la photo de famille, comme dans les cadres du Parti communiste, on les efface, pour beaucoup, multiréférentialité, c'est tout et n'importe quoi, et puis ainsi de suite, y compris dans tout ça, Mais de fait, ces questions-là sont assez cruciales, et même si d'autres ne le connaissent pas, ben, ils réinventent des choses qui sont de cet ordre-là. Moi, c'est ce que je pense. Mais il faudrait examiner plus, au-delà de... Ici, c'est quand même... on voit un tableau d'horizon hein, du René Barbier. On n'approfondit pas tel et tel thème avec discussion critique approfondie, mais ça vaudrait la peine. Enfin, voilà.
Il y a dans sa vie il y a ce que tu disais, Francis, sur la petite focale de l'université qui ne se résume pas à la réalité du monde. Dans la pensée du complexus d'Edgar Morin, on voit bien qu'il y a une espèce de désir d'ouverture très large. Hein, et puis tu fais bien de pointer la question du sens avec la question du sens de sa vie, la question de sa finitude. C'est pas des questions actuelles, c'est des questions de tout temps qui touchent l'humanité. Et moi, ce que je pressens avec votre partage là, c'est surtout que il est précurseur déjà de, pour moi, de la relation à soi, de sujet à sujet, et il permet finalement au sujet, même sur des rencontres assez brèves, de plonger dans une quête de sens déjà. Ce qui n'est pas le cas d'avec, je ne suis pas en train de faire de la comparaison avec d'autres enseignants. Je vois par exemple, moi, pour ma part, dans ma pratique enseignante, j'utilise beaucoup de choses que j'ai pu voir, bon, aussi avec toi, Jean-Louis, mais beaucoup avec René. Et je pense que beaucoup de ces étudiants ont pu finalement travailler en eux-mêmes avec tous les apports de René. Et pas simplement dans une perspective, dans une trajectoire d'atteindre un niveau, d'être prof et puis d'être habilité un jour. Non, je crois qu'il y a autre chose qui est sous-jacent, René. C'est précisément ce que j'évoquais tout à l'heure sur la spiritualité. C'est finalement de toucher quelque chose d'une joie sans objet et d'un vrai bonheur, finalement. Et qui est certainement ce que René a essayé d'atteindre dans son parcours. Et d'essayer de nous le, peut-être pas directement, mais par contagion, de nous montrer qu'il y a vraiment un réel. Hein, et puis l'amitié avec Bassarab Nicolescu, hein, très brièvement, deux concepts clés, l'inséparabilité entre les objets, c'est quand même puissant ça, en physique quantique, inséparabilité, et la question d'un tiers caché agissant. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi. Enfin, cette jonction avec le CIRET, c'est quand même... Ça donne du sens. Enfin, ça peut donner du sens.
Je crois en même temps que dans la position institutionnelle de René, il y avait quand même une interrogation qui tournait autour de ce qu'a dit Francis tout à l'heure. Parce que René, c'était quand même un universitaire pur jus, quoi. Aussi, à côté de ça.
Si, si, il a quand même passé énormément de temps. Bah, sa biographie a été un peu résumée, plus que résumée ce matin. C'est quelqu'un qui a été essentiellement enseignant et quasiment essentiellement universitaire après toute sa vie, jusqu'à sa retraite. Et il a fait 2 ans de plus, 3 ans de plus. Moi, je l'ai vu quand il avait posé son congé sabbatique. Tous les jours, il était là. J'ai dit, enfin, tu poses un sabbatique, tu es là tous les jours. Ça n'a pas de sens. Tu demandes du sens. Ça n'en a pas. Pars en vacances. Je ne sais pas, fais quelque chose. Mais voyage. Ne viens pas tous les jours dans le bureau. Enfin, ça pas... quelque chose qui ne collait pas. Quoi. Ben, je crois que parce qu'il aimait vraiment beaucoup l'université, peut-être parce que c'était par 8 à Saint-Denis et que c'était lié aussi à sa vie depuis très jeune. Mais je crois qu'il avait un côté institutionnel aussi très marqué. René, hein. Même dans l'écoute par rapport aux étudiants, nous on est peut-être des étudiants privilégiés aussi, là vous voyez, hein, on est encore vivant en quelque sorte, quoi, vous voyez. Mais il y en a d'autres pour qui ça n'a pas marché du tout ce rapport-là, y compris le rapport un peu maître, gourou, les trucs comme ça, même si moi je ne suis pas gourou, mais en fait il y avait cet aspect-là chez lui, bien évidemment, qui marchait très bien avec certains étudiants, c'est évident. En plus, il le voyait, parce qu'il y avait le côté sociologue qui continuait de vivre, malgré tout, en dessous. Hein. Sociologue et psychosociologue. Et psychosociologue aussi. Ce qui lui donnait, d'ailleurs, parfois une certaine efficacité au niveau des réunions institutionnelles. Hein, la technique de René, par exemple, dans les réunions institutionnelles, c'était de ne rien dire pendant la réunion. Des fois, quand ça se passait autrement, c'était pas possible. Généralement, il disait rien, puis il prenait la parole qu'à la fin. C'est une technique, quoi. C'est une technique parce qu'après, on ne peut pas vous couper la parole. Je n'avais rien dit avant. Donc, on vous laisse parler. C'est tout con, quoi. C'est tout simple. Et souvent, ça emmenait bah, ça faisait gagner la partie, quoi. Hein, faut s'en rappeler, ça. Bah oui, c'est un truc tout bête, quoi. Mais avant, ils s'endormaient. Ils faisaient semblant de ne pas dormir. Ils faisaient comme ça, quoi. Mais en fait, ils dormaient. Ils s'en foutaient. Ils attendaient la fin pour dire ce qu'il avait à dire. C'était une technique. Vous assure que c'est une technique qui marche. Hein. J'avais fait avant lui dans les grèves. ça marche bien, hein, y compris dans les grèves, mais aussi à l'université. Il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, quand on en parlait, puis bien avant sa disparition, bien avant encore du temps de son activité, Paris, il disait, tu vois, la spiritualité, tout le monde s'en fout. Je fais des cours sur le mytho-poétique, l'improvisation mytho-poétique. On est 5 dans le cours, il n'y a pas plus de monde. C'est vrai, il disait lui-même. Au début, il y a 10 étudiants. La semaine d'après, il y en a 8. Puis après, on finit à 5, le semestre. Hein. C'était comme ça. Parce qu'il avait conscience que c'était quelque chose de trop particulier, y compris à Paris 8. Quoi. Même pour moi, d'ailleurs, j'y allais pas. Et donc, mais en même temps, il y avait le regret que quelque chose de cette particularité-là très forte ne s'institue pas. Or, le paradoxe, c'est qu'en fait, quand il aura eu des occasions de pouvoir l'instituer, de le faire connaître à l'extérieur, par les écrits, bien sûr, mais aussi par voie médiatique, la radio, la télé, les grands journaux, les grandes audiences, etc., quoi, il y avait une espèce de refus. C'est-à-dire, j'y vais pas. Alors donc, je disais, mais enfin, ben, t'y vas pas. Puis en même temps, tu dis que c'est pas connu, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y avait une espèce de réticence chez lui que j'ai jamais réussi à élucider de ce côté-là. Parce que par ailleurs, il adorait la magistralité. Hein, quand René partait sur un truc, il y en avait pour je ne sais combien de temps, quoi, ça en finissait pas. Hein. J'ai vu des nuits tomber complètes, quoi. Maintenant, il faut allumer, on ne se voit plus là. Et ça continuait. Alors donc, ce paradoxe, moi, ça m'a toujours étonné, parce qu'en même temps, son aspect qu'on n'a pas trop évoqué autour de la sagesse, quand quelqu'un de spiritualité, on y arrive, hein, ça aurait été d'avoir davantage de recul par rapport à ça. Or, il l'avait pas tout à fait, quoi, du temps de son activité au moins, et puis les années qui ont suivi. Alors après, tu as raison, le grand âge arrivant, etc., là, il y a eu quelque chose qui était plus de cet ordre-là. Bah, les choses sont comme elles sont, la rivière coule, et puis de toute façon, il ne restera rien. Voilà, c'est tout. Mais j'ai jamais trop cru. Je pense qu'il y a vraiment eu un regret par rapport à des choses qui auraient plus institutionnalisé davantage encore à l'université. Et je pense que ces regrets sont liés à ces enseignements sur la sagesse, sur l'Orient. Parce qu'ensuite, l'Orient a été continué dans Experis un peu, mais pas du tout selon la voie de René, selon une voie sociologique, beaucoup plus sociologique,
anthropologique,
etc. Ça n'a plus rien à voir, parce que ce qui l'intéresse essentiellement, René, sur la Chine, pour le point de vue spirituel, bah, c'était la sagesse traditionnelle chinoise.
C'était ça qui l'intéressait. Pas du tout. La Chine d'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'à la limite, ils sont foutus. C'était pas son problème, quoi. Si, pour l'écologie, quand même. Ça, pour l'écologie, dans le discours, ça revenait souvent. Mais bon, c'était pas fondamental. Alors voilà, il y avait le paradoxe chez cet homme de pas faire ce qu'il fallait pour que ça advienne et puis en même temps de le déplorer. Enfin, quelque chose de ce côté-là, c'était assez amusant. Et du côté spirituel, alors, on s'est jamais entendu là-dessus. C'est pas qu'on s'est entendu, c'est qu'on n'en parlait pas. Comme ça, on savait qu'on n'avait pas de scène de ménage. c'était tranquille. Il savait que pour moi, la spiritualité, c'était maximum les exercices spirituels chez Pierre Hadot. Là, c'est clair, c'est net. Dans l'intro de l'exercice spirituel, Pierre Hadot, philosophe décédé aujourd'hui, il dit que d'ailleurs, il s'est longtemps interrogé pour savoir s'il fallait appeler ça exercice spirituel. Et longtemps, il a hésité pour les appeler exercice existentiel. Hein. Et moi, je suis plutôt sur ce versant-là, d'ailleurs. Comme ça, ça évite toute ambiguïté. Mais malgré tout, Hadot avait quand même choisi la spiritualité. Moi, j'ai jamais été sur ce terrain-là parce que le côté... Après, je comprends plus. C'est une philosophie que je ne comprends plus. J'ai l'impression toujours qu'à un moment donné, surtout qu'à la fin, pour René, ça se croisait depuis plusieurs années avec l'astrophysique. C'est un mouvement qu'on voit souvent d'ailleurs dans certaines philosophies extrêmes dans l'existentiel ou le spirituel. L'astrologie, c'est comme si ça apportait du grain à moudre au raisonnement. Hein. Vous voyez, oui, il y a eu le Big Bang, et puis en fait, les atomes, ça se répand et puis ça s'accélère de plus en plus, mais ils sont toujours là, quoi. Ils sont toujours là. Les neutrinos, ça nous traverse, on s'en rend pas compte, ça traverse la planète aussi, mais ils sont toujours là et ça existe tout le temps. Et quand on parlait de la mort. Quand on parlait de la mort, surtout sur la fin, alors on est en plein spirituel justement, quoi. On a eu des problèmes de santé à peu près en même temps d'ailleurs avec François. Je m'en fous, on est mort, puis c'est tout. Parce qu'on va faire un roman, quoi. Puis je dis, de toute façon, regarde, on ne sera pas les premiers à mourir. Des humains qui sont morts, il y en a au moins 20 milliards avant nous. Quoi.
87.
Ouais, ils sont tous morts, on va bien y arriver aussi, quoi. On n'est pas plus bêtes que les autres. Ah, faut pas oublier ça, l'humour. L'humour, c'était un truc qui marchait très bien chez René, quoi. C'était pas quelqu'un d'hyper sérieux, d'hyper chiant. Il y avait des côtés très très drôles, quoi. Très très drôles. Alors donc voilà, il y a le paradoxe de cet homme et puis une spiritualité que je soupçonnais pour rejoindre Guy ce matin, d'en fait rejoindre le religieux quelque part. Quoi. Rejoindre le religieux avec l'idée d'un au-delà. Alors, au-delà qui se transforme avec les quatrième, cinquième dimensions, peut-être, des astrophysiciens avec les trous noirs, avec je ne sais pas quoi. Mais on sentait que chez lui, il y avait une espèce de petite lueur d'espoir, peut-être bien, d'une continuité quelque part là. Ce qui était aussi à nouveau complètement paradoxal avec le fait de dire, mais tu sais, une fois qu'on est plus là, il n'y a plus rien. Même à l'université, tu pars, 2 ans après, il n'y a plus rien de toi, c'est fini, ce qui est tout à fait juste d'ailleurs. Mais il dit, mais c'est pareil, dans la vie, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, c'est fini. Alors donc, on est tous tissés de paradoxes, hein, y compris à l'université, bien évidemment. Mais c'est intéressant chez les intellectuels comme ça. Et l'obsession de la mort, c'est vrai. René est mort à peu près de la même façon que Jacques Arduano, un an avant. Et René avait accompagné Jacques dans ses derniers moments, hein, dans ses derniers moments. Sauf que Jacques était inconscient. Mais Jacques avait dû souhaiter une mort stoïcienne, comme il avait vécu, j'imagine. Et ce passage vers autre chose, on avait parlé quelques jours avant qu'il meure, c'était effectivement de l'ordre du lâcher prise, quoi. Ça avait été ses mots. Il m'a dit, viens, faut qu'on cause. Puis, oh, d'accord, on va causer. Il me dit, tu vois, là, ça y est, j'ai lâché prise. Quoi. Alors, le lâcher prise, c'est un truc qu'il utilisait très, très souvent dans le Dufa. Hein, le lâcher prise dans le Dufa, passer un temps dans les séances de créativité, c'était extrêmement fréquent. Là, donc, il l'appliquait, quoi, en quelque sorte à lui-même. Donc, voilà, je ne sais plus très bien pourquoi je disais ça, le lien avec la spiritualité. Mais si, justement, c'est ça, la spiritualité, c'est l'accueil des choses, en fait, aussi, comme elles arrivent. Enfin, c'est ce que je dirais. Et là, on rejoindrait l'exercice spirituel. Pense à ta mort tous les jours. Pense à ta mort tous les jours, conscientise-la, surtout pense-y bien, et ne la vois pas comme un problème. ne la voit pas comme un problème, c'est là, point. Alors, il y a pour la mort, mais il y a pour d'autres choses qui sont plus réjouissantes, hein, aussi peut-être. Donc voilà, et moi ce que j'appréciais du côté de l'innovation, de ce qui pourrait rester, c'est vraiment l'envie qu'il a toujours gardé jusqu'à la fin de créer des trucs, de créer des dispositifs, de créer des choses, des groupes, des trucs comme ça. Et là, là-dessus, on s'entendait assez bien, quoi, parce que... Et puis en plus, il aimait bien le faire vite, et puis il était rigoureux, quoi. Alors moi aussi, j'aime pas que les machins, ça dure, il faut que ça aille vite, mais en étant, si possible, rigoureux. Et du coup, on s'est assez bien entendu, quoi, sauf, y compris dans la pratique, sauf pour ce truc de la spiritualité que j'ai toujours pas élucidé, quoi. Je sais pas, élucidé dans le rapport que j'avais avec lui, mais chez moi-même, bien entendu, au premier chef, quoi. Voilà. Mais moi, je pense que la spiritualité, si on écrivait la pensée de René d'une façon différente qu'il l'a écrite lui-même, avec François Fourcade, passé un temps, on avait pris le bouquin de René, on y avait dit, tu vois, ta recherche existentielle, ton petit bouquin, là, chez Anthropos, c'est illisible, ce truc-là, on va le réécrire. On va le réécrire à trois, parce qu'on n'y comprend rien à ton bouquin, quoi. Il est mal foutu, il est mal construit, il faut qu'on le refasse. Il n'était pas contre, quoi. Il disait, ouais, mais il disait, moi, je le fais pas, faites-le. Et parce que je pense que là, il y avait une mine de réflexion et puis de pratique à mettre en place qui était insuffisamment bien décrite dans le bouquin, quoi. Et qu'il faudrait vraiment faire. D'ailleurs, lui-même disait, bah, elle est partie, elle était là ce matin, quand on a fait la recherche sur... de recherche et action existentielle sur les écoles Steiner, et tu vois, j'ai écrit un bouquin, mais j'en ai jamais fait. C'est la première fois que je le fais aujourd'hui avec les écoles Steiner. La première fois que j'ai un vrai chercheur collectif qui se construit, etc. Rien n'avait existé de ce qu'il avait écrit dans la recherche action existentielle. Rien. Alors, il disait le DUFA. Oui, mais le DUFA, ça marche pas comme un chercheur collectif, c'est pas vrai. Je dis, ouais, mais une recherche action existentielle, ça peut être une seule personne. Bah, je dis, ouais, bah alors, le groupe du chercheur collectif, il est où, quoi? Ben oui, mais c'est comme ça. Chez vous, c'est pas... je pense que si on réécrivait des passages de René, de sa pensée, qu'il écrivait d'une façon extrêmement particulière, y compris dans l'approche transversale, hein, peut-être ça pourrait... et là, ça serait la question de l'héritage. Hein, justement, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, le vulgarisant presque en quelque sorte, hein, en le rendant peut-être un peu plus universitaire, s'il y avait le désir que ça s'inscrive dans l'université, pour que ça soit transmissible d'une façon plus aisée et reçu peut-être par les instances, y compris pour un étudiant qui se pointerait après en doctorat ou au CNU, je ne sais pas quoi, pour que ça puisse marcher. Parce qu'il avait conscience de ça aussi. Il avait conscience que ce qui se faisait, ça faisait pas des maîtres de conf, ça. C'est pas possible. Ça marche pas institutionnellement.
Avec toi, ça.
Ouais, parce que moi, dans mon truc, il y avait rien de René Barbier. Il y avait rien. D'ailleurs, ah oui, j'ai une anecdote pour vous dire un peu le personnage aussi. C'est intéressant. Ça. Alors, je sais pas sur le plan spirituel, moi sur le plan pédagogique, j'avais fait une thèse où je citais René une fois. Une fois, et un truc pour un truc comme le journal, je crois, qui a été évoqué ce matin, mais rien d'autre. Et je ne citais jamais Krishnamurti, jamais. Et aucune allusion à la Chine, rien. La poésie, rien. Et donc, deux planètes opposées, quoi. Et quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai présenté, machin, comme tu fais tout un pétrant, quoi. Et après, René a sorti un papier qui était une contre-thèse à la mienne. Devant tout le monde, quoi. Devant tout le monde. C'était assez invraisemblable comme situation. Quoi. Alors dans son schéma qu'il présentait, il remettait du noétique, il remettait du spirituel, il remettait enfin, tout ce qu'il aurait aimé voir dans ma thèse, mais qui n'y était pas. Quoi. Et alors, après, je me suis dit, j'en ai reparlé les années après, j'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Je veux dire, il y a des gens qui venaient de la Sorbonne et tout. C'est quoi ce directeur de recherche? C'est pas possible. ça n'existe pas. J'ai dit, si ça existe, il s'appelle René Barbier. Et après, il m'a dit, bah, je sais pas. Mais il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai dit, qu'est-ce que ça a fait? Bah, j'ai dit, ça m'a rien fait du tout. Je suis là, c'est une thèse, on discute, il y a des points de vue opposés, ça marche très bien. Mais institutionnellement, là, il y avait un truc qui marchait pas. Tu vois? C'est rare que tu présentes une thèse différente de celle de ton candidat. Ça, c'est un peu étrange, quoi. Alors, c'était la complexité du personnage aussi. Et j'ai vu parfois, en soutenance, ne pas être aussi bienveillant que ça, quoi. Hein, nous, ça va, parce qu'on était dans une relation, oui, c'est vrai, d'empathie, etc. Oui, on n'a pas cité Rogers depuis ce matin. Carl Rogers, la psychologie humaniste et tout, ça a aussi une grande importance, hein, dans son parcours.
Puis, Michel Lobreau, là, il y a Ruben Bach qui a envoyé un message, il m'a envoyé un mail, oui, signé de Michel Lobreau. Tu veux bien le dire un peu, parce que c'est quand même quelqu'un d'important, Michel Lobreau.
Je viens d'arriver ici, alors je ne suis pas au courant de vos discussions.
Mais t'as envoyé un mail en disant, tiens, je vous signé Michel Lobreau.
Michel est très impliqué avec René Barbier. C'est un collaborateur de l'Institut Agora pendant des années. Et alors, il est, bon, maintenant, Michel Lobreau, il a 94 ans. Alors, ce n'est pas facile pour lui de venir ici. Mais son cœur, il est avec nous, avec vous. Et avec René, parce qu'il l'aimait beaucoup, et même quand Michel Lobreau il a eu 90 ans, et René Barbier c'est un invité spécial qui a participé dans la cérémonie, etc. Et moi je voudrais dire quelque chose par rapport à le spirituel, si c'est possible. Et moi j'ai fondé une approche beaucoup d'années avant, 20 années avant, et la première phrase que j'écris dit que la caractéristique de mon travail, c'est prendre en compte les transpersonnels. Et il y a beaucoup de rapports entre les transpersonnels et les spirituels. Moi, je suis très curieux et j'étais dans plusieurs cours de René Barbier par rapport à la poésie, parce qu'il adorait bien la poésie, par rapport à Krishnamurti, etc., etc. Alors, je me disais que peut-être René Barbier devait aller plus loin, parce que mais le problème, c'est qu'il était complètement isolé ici et beaucoup de gens ne donnaient pas l'importance à ce point de vue. Et pour moi, c'est tragique, ça, parce qu'il était complètement seul, complètement isolé par rapport à ça. Je ne sais pas si vous pensez la même chose.
Oui, mais même par ses mêmes collègues, dans son milieu, il était un peu isolé.
Oui. Pour moi, je suis content parce que juste, il a fait une thèse où il prend beaucoup en compte les sujets de la spiritualité. Et comme moi, je développe beaucoup la dimension spirituelle dans son sens. Alors, et pour moi, c'est banal, c'est habituel de travailler avec ça. Ici, je vois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et dans la réalité, il y a la spiritualité, elle est partout. Il y a beaucoup de méthodes. Je sais pas, il y a une méthode qui s'appelle le processus de quadrinité Hoffman. Ça passe dans 20-25 pays, donc la France aussi. Là, on travaille, c'est un travail de psychothérapie, c'est un travail de recherche personnelle, et la dimension spirituelle fait partie de ça. C'est pour ça que moi, je suis étonné quand on parle de la spiritualité ici, quand c'est quelque chose qui est très installé dans la vie courante. Des fois, moi, je suis universitaire, je suis prof à l'Université pédagogique du Mexique. J'étais prof invité à Paris 8. Et moi, je sens que dans certaines dimensions, on doit être plus en accord avec ce qu'il passe dans la société. Comme qu'on est en retard complètement. Tu vois. C'est pour ça que pour moi, Paris 8 et René Barbier, c'était la personne avec laquelle je pouvais avoir des dialogues, des vrais dialogues. Et ça m'a soulagé beaucoup de savoir qu'on avait quelque chose en commun. Pour moi, c'est un homme très vital. Et je me souviens la dernière fois qu'on a mangé ensemble, il m'a dit, et moi j'ai 78 ans, il m'a dit, c'est un très bel âge, il m'a dit. Et après, il m'a dit, oui, je dois aller bientôt voir le docteur. Il m'a raconté qu'il avait une quantité de problèmes de santé. Et bon, mais il était vraiment bien dans son corps et dans son cœur. Bon, merci beaucoup. Je m'appelle Ruben Bag et si vous voulez, après, on parlera.
Merci. Prenez un siège pour vous. Bravo.
Tiens, bien, non ?
Ah, il y en a un.
Ruben.
Ruben. Ruben. Ruben Bag.
R.
Bag.
B-A-G.
B-A-G.
Oui, je suis de l'Argentine et je travaille à l'Université de Mexico. Ça veut dire que je suis de l'Amérique latine, du Nord et du Sud. Et toi?
Brésilienne.
Ah, brésilienne.
Voilà.
Tout au même.
Est-ce que on va...
Oui, 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 si on... Est-ce que quelqu'un souhaiterait, l'heure avançant, la lumière ayant été allumée, est-ce que quelqu'un souhaite peut-être clore cette deuxième partie de l'après-midi avec pas une synthèse de tout ce qui a été dit, évidemment, mais... Ah, alors, tout à l'heure, je crois que les fondateurs et actuelles personnes qui font vivre l'UCP ont répondu d'une certaine façon à ta proposition de « créons une université ». Elle est quand même de facto... Hein, déjà là, alors peut-être renforçons-la.
Voilà. Venez tous adhérer à l'UCP.
Voilà, on a déjà fait plus de la moitié du travail là. Hein. Il n'y a pas besoin de sortir un papier et un crayon.
Donc la prochaine séance de l'UCP, c'est le 24 mars. Et on va travailler, on appelle ça un CAP, c'est un collectif apprenant. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on fait une université populaire où on n'est pas forcément des intervenants qui viennent nous raconter ce qui se passe. Mais c'est plutôt nous qui produisons des choses, quoi. En fait, voilà. C'est un atelier d'écriture, voilà. Et là, on va travailler sur l'épistémologie du Sud, parce qu'on prépare le colloque du 18, 19 et 20 mai, donc à Paris 8, et on prépare le colloque. Voilà. Donc ceux qui veulent mettre parfaitement le 24...
Leur esprit. C'est l'après-midi ou le matin?
C'est l'après-midi, de 14h à 18h.
14h-18h.
Et c'est sur le site de l'ECP. Allez-y, c'est gratuit.
Ok. Juste pour terminer donc notre petite partie à nous.
Après, moi, je ferai
absolument. Christian, je voulais te remercier. Toi, que je t'ai toujours entendu te démarquer quand je parlais du couple René et Christian, incroyable, où tu disais que bon, vous n'aviez pas réussi à vous co-féconder, mais que bon, il s'était passé quand même plein de trucs. Je t'ai jamais aussi bien entendu parler de spiritualité cet après-midi, alors que je t'ai toujours vu dans une posture de retrait sur cette question-là, qui nous avait valu d'ailleurs, fut un temps, des échanges assez intéressants.
Ah ouais, ouais. Clairement, on s'est engueulé, quoi.
On peut le dire. Mais on s'est aussi rabiboché, donc...
C'est très bien comme ça.
Tout est possible. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. À toi, Jean-Louis.
Ben, merci.
Alors, c'est pour dire que... Bon, donc, du côté de l'UCP, là, vous voyez, comme co-organisateur... Les collègues viennent s'exprimer. Frédéric Lherbet et moi-même, dans le cadre du séminaire doctoral Pau Paris 8, elle m'a chargé de faire une annonce, hein, une information, une invitation en même temps. L'année, alors ça a lieu tous les ans en mars. Alors on ne sait pas encore quel week-end, on n'a pas encore décidé quel week-end, etc. Donc c'est un séminaire interdoctoral, mais c'est ouvert. Hein, et ça aura lieu à Pau. Parce que. Comme disent les Québécois, Pau-Paris, c'est pas plus loin que Paris-Pau. Parce qu'il y a toujours, on dit, ouais, mais c'est loin. Bon. Et donc, c'est la première fois. Et donc, on va essayer de voir même comment il y aura moyen de faire quelque chose avec. Alors, c'est toujours un vendredi et un samedi. On sait pas encore, on n'a pas encore décidé lequel. Et le samedi, on se réserve, comme aujourd'hui on a fait sur René Barbier. Frédéric, et je suis d'accord avec elle, veut faire quelque chose autour de une journée autour de Jacques Arduano. Et comme elle est aussi vice-présidente de la FIRS et tout ça, il est probable aussi que... y ait quelque chose autour de ça. Alors, il y a déjà eu, de son vivant, des hommages à Arduano. Hein, je vous conseille le livre de Christine Campini, ici présente, sur une biographie de Jacques Arduano. Christian Verrier en a fait une autre. Il y a eu un numéro de revue, Le devenir de la multiréférentialité, hommage à Arduano, qui s'appelle comme ça. Bon. Donc, de son vivant. Mais en tout cas, voilà, donc ça aura lieu en mars de l'année prochaine, à Pau.
Le labo espéré, c'était pas louer un bus.
Pas louer un bus.
Louer un train, tu veux dire.
Le train, comment ça fonctionne?
Un autorail.
Oui, un autorail, voilà. On aura le temps de faire des trucs.
Bon, et puis par rapport à cette journée, nous vous remercions d'être venus nombreux. Hein. Je pense qu'on a vécu une séance avec un cercle de parole où les uns et les autres pouvaient s'exprimer, poser des questions, puis réfléchir sur cette question-là. Et on voit aussi que ça va dans beaucoup de sens. Donc il y a sûrement des personnes, et vous les avez repérées ici, qui approfondissent telle et telle question et tout ça. Donc rien n'empêche d'avoir des personnes qui développent telle et telle dimension d'approfondissement qui est là. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'être venus. Est-ce qu'au nom du CP, vous voulez dire un mot de clôture ?
Bon. Ok. Et nous, on peut exprimer notre gratitude pour cette journée qui était assez fantastique. Un petit applaudissement collectif, non ?
Ouais.
À l'UCP, moi, ce qui m'a animé dans cette aventure au démarrage, 2012, c'était que, comme ici, tout ce que j'avais connu dans l'enseignement à Paris 8 en sciences d'éducation commençait à disparaître. Et à l'UCP, l'idée, c'est de continuer ça. Ce qui s'est produit ici, au moment où il y avait René, Jacques, Jean-Louis, Christian, et que ça dure ailleurs, sous une autre forme, autrement, mais que le fond de l'affaire demeure.
Voilà. C'est terminé.
Merci.
Putain. Oui.